Classique 21, you rock.
Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, bienvenue à bord du cargo de Radio Caroline, sur le pont duquel sont rangées aujourd'hui quelques belles motos de la plus sauvage espèce. Et pour cause, c'est sur les pistes des Outlaws Bikers, des motards hors la loi, et d'un de leurs fameux et sulfureux clubs, le Outlaw MC, que nous allons foncer. Et même si ces cylindrés vous laissent complètement indifférent en général, l'histoire étonnante et transgressive de ces bikers américains vaut franchement le détour. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si de nombreux films, dont un très récent, et même une série télé, les ont pris pour protagonistes. Alors il faut le savoir, quatre grands clubs de motards se disputent différents territoires à travers les États-Unis depuis 50 ans et sont considérés par le FBI comme des gangs hors la loi, passibles de poursuites en vertu de la loi fédérale sur les organisations motivées par le racket et la corruption, la loi RICO. Il y a les Hells Angels, évidemment, ce sont les plus connus et les plus nombreux, avec de surcroît des sections dans une cinquantaine d'autres pays. Vous avez aussi les Pagans, qui revendiquent la majeure partie de la côte Est, et les Bandidos, qui règnent dans le Sud, principalement au Texas. Mais le club le plus ancien est celui des Outlaws, fondé dans la banlieue de Chicago en 1935 et dont le cœur bat toujours dans la région des Grands Lacs, même si ces Outlaws se sont répandus dans une grande partie du pays, et même d'ailleurs au-delà. Or justement, il y a quelques mois, sortait sur les écrans The Biker Riders, un film de Jeff Nichols qui raconte leur histoire. Sorti au printemps 2024, The Biker Riders, film de Jeff Nichols, raconte l'histoire au milieu des 60s d'un club de Chicago nommé, dans la fiction, The Vandals, fondé par un certain Johnny, une brute sympathique entourée de quelques potes, dont Benny, une tête brûlée au physique ravageur, et Zipco, un grand laiton alcoolo anticommuniste primaire, sans oublier la belle brune Kath, petite amie de Johnny, le boss.
Thinking of starting a riding club. Why?
All those clubs do is sit around talking about motorcycles.
That's what we do.
When I was a boy, I had a mind of my own.
They don't belong nowhere else, so they belong together.
But you're the man in charge.
I'm Johnny. We're the Vandals.
I'm Benny.
I like you guys.
Boyfriends are getting into trouble.
Hey!
I told you to take that jacket off.
You'd have to kill me to get this jacket off.
I don't want any trouble here.
Then I'll let you leave. What about the bar?
Burn it down.
Ce film, The Bike Riders, Jeff Nichols l'a adapté, non pas d'un roman ou d'une biographie, mais, chose plus rare, d'un livre de photos portant le même titre et publié en 1968 par Danny Lyon. Le jeune photographe y montrait la vie au quotidien d'un groupe de motards de Chicago, l'Outlaw Motorcycle Club, avec lequel Lyon avait passé 4 ans sur les routes, devenant en bout de course l'un des leurs. Lyon s'étant muni, outre son appareil photo, d'un magnétophone, des entretiens avec quelques protagonistes compléteront les clichés, l'ensemble s'organisant en un récit qui inscrira ce club de motards hors la loi dans la contre-culture américaine. Sauf que, sorti un an avant que l'Easy Rider de Dennis Hopper et Peter Fonda ne cristallise la mythologie des bikers, ce livre n'aura que peu de retentissement lors de sa première publication avant de s'imposer comme un classique de la photographie américaine par la suite, documentant comme nul autre le mode de vie de cette bande de motards qui s'oppose à tout ordre établi. Easy Rider, justement, j'y fais allusion, une culte virée à moto à travers les USA sans but précis, si ce n'est de profiter d'une liberté gagnée par la vente de stupéfiants, le film d'une génération entre flower power et contestation dure, un road movie pessimiste baigné de musique pop, de mauvais trip au LSD et de hippie accro au chanvre. Et au guidon de leur chopper, ces motos à longue fourche emblématique des 60s, Dennis Hopper, par ailleurs réalisateur, et Pete Fonda, cheveux au vent, sur fond de grands espaces désertiques.
Easy Rider. It's the story of a man who went looking for America and couldn't find it anywhere. Easy Rider stars Peter Fonda.
It's not every man that can live off the land, you know. You do your own thing in your own time. You should be proud.
Also starring Dennis Hopper, the award-winning director of Easy Rider.
Man, look, I gotta get out of here, man. We got things we want to do, man. Like, I gotta get out of here, man.
Co-starring Jack Nicholson.
I got this here, scissor happy beautify America thing going on around here. They're trying to make everybody look like Yul Brynner.
Mais revenons au livre « Bike Riders » de Danny Lyon, sorti donc un an avant « Easy Rider », un livre qui a fasciné le réalisateur Jeff Nichols, qui finira par l'adapter. En fait, ce n'est qu'en 2003, 35 ans après sa première publication, que le réalisateur le découvre, grâce à son frère, musicien, qui lui offre. La culture des motards, leurs fringues, leur manière d'inventer leur style, tout me parlait, racontera-t-il. Il faut dire que mon père écoutait de la musique des années 50-60 à la maison, que j'ai grandi quand la mouvance rockabilly est réapparue dans les années 80 avec les Stray Cats, et que j'ai aussi été marqué par The Loveless, un film de Catherine Bigelow. Un long métrage centré sur un gang de motards hors la loi réalisé en 1981 avec William Dafoe.
Here they come, as tough as they come. The Loveless.
Which way are you coming from?
It don't matter which way I'm coming from. It's which way I'm going to.
I know I could send you to heaven. I don't want them in here, and I don't want to serve them.
Like the town?
They're animals.
We'll be right in the neighborhood.
The Loveless. Hope you don't live where they're going next.
The Loveless, 1981, film qui marquera donc Jeff Nichols quand il le découvrira en VHS, on l'imagine, puisqu'il n'avait que 3 ans quand il est sorti en salle. Avant de poursuivre l'histoire de nos outlaws, sur les routes, blousons de cuir, noirs zippés et mains gantées bien accrochées au guidon, petit focus sur ce Jeff Nichols, sur ses débuts, et sur ses bikers.
Radio Caroline.
Originaire d'Arkansas, état du sud-est des États-Unis, Jeff Nichols est âgé de 28 ans quand il signe en 2007 son premier long-métrage Shotgun Stories, un film poétique et puissant qui suit la querelle sanglante qui éclate lorsque deux groupes de demi-frères se battent lors des funérailles de leur père. Long-métrage puisant à la source des mythes fondateurs de l'Amérique et de ses paysages. Après quoi, Nichols se poursuit dans le sillon du cinéma indépendant avec le film Take Shelter, très acclamé en 2011, et Mud l'année suivante. Le réalisateur bifurquera ensuite vers la science-fiction avec Midnight Special en 2016, année où sort par ailleurs Lovin', qui raconte avec respect et beaucoup de délicatesse l'histoire vraie d'un couple mixte, elle est noire, lui est blanc, un couple à l'origine de l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis rendu en 1967 et déclarant anticonstitutionnelle toute loi apportant des restrictions au droit du mariage en fonction de la couleur de peau des époux.
In here?
Richie!
What you doing in bed with that woman?
I'm his wife.
That's no good here.
Richard Perry Loving, being a white person, and Mildred Jeter, being a colored person, did unlawfully cohabitate as man and wife.
Richard?
That ain't right!
Love In, Jeff Nichols, 2016. Ensuite, la carrière du cinéaste et sa réputation vont s'embourber dans des projets qui capoteront, avant donc qu'il ne revienne au printemps 2024 avec l'adaptation de cet album photo de Danny Lyon sur les membres du Chicago Outlaws Motorcycle Club, Bike Riders. Au sujet de Benny, le vrai chef de ce club dans la vraie vie, Nichols explique: on ne voit jamais son visage de face dans ce livre de photos. Il n'est même pas interviewé. Ce sont les autres, dont sa femme, Cathy, qui en parlent. Y a-t-il meilleur moyen de bâtir une légende? Et Nichols d'ajouter: le fil conducteur, c'est l'incapacité de ces types à exprimer leurs sentiments. Si le narrateur était l'un d'eux, on n'irait pas très loin. Être marié à Benny offrait à Cathy un accès direct au club, dont elle ne faisait pas partie puisqu'elle était une femme. Pour composer avec ça, elle a dû faire preuve d'intelligence, d'intuition et d'autodérision. Elle résume très bien les choses. Ces types ne veulent pas suivre les règles, alors ils se réunissent, montent un club et s'imposent un tas d'autres règles. Y a-t-il plus stupide ? Jeff Nichols poursuit. Il refusait d'intégrer la société tout en se plaignant de ne pas y être accepté. Il rejetait tout ce qui définit l'American Way of Life des années 50, contracter une hypothèque, s'acheter une voiture, élever des enfants. Puis ça a mal tourné. Avec la fin des années 60 et leur retour de Vietnam, la violence a gagné du terrain et c'est devenu une culture de la drogue. Les gangs de motards se sont peu à peu définis selon les territoires qu'ils géraient dans le trafic de stupéfiants, l'héritage du crime organisé en somme. Toujours dans ce livre de Danny Lyon, c'est à propos d'une photo de ces Chicago Outlaws, où l'on voit quelques-uns de ses membres porter le cercueil d'un des leurs, Nichols note. Les enterrements, qui en disent moins sur les morts que sur les vivants, étaient une occasion pour ces clubs de se donner en spectacle. Ils arboraient leurs plus beaux perfectos, faisaient une haie d'honneur, une démonstration de leur loyauté, peut-être de leur amour, mais aussi de l'expression de leur pouvoir. Dans le livre, il est raconté que les parents d'un de leurs membres décédés ont refusé que le club leur envoie des fleurs. Alors le boss a lancé à son émissaire qu'ils aillent se faire foutre, envoie-les quand même, s'ils n'en veulent pas, ils n'auront qu'à les bouffer. Qui oserait sortir ça à des parents en deuil ? Laissons ici Jeff Nichols et poursuivons la route avec ses Outlaws et celui qui les suivra, les photographiera, les interviewera pour finalement intégrer leur club, Danny Lyon.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
En suivant et photographiant les Chicago Outlaws avec un réalisme cru mais empreint d'humanisme engagé, Danny Lyon ne se rangeait pas seulement dans le camp du nouveau journalisme, popularisé dans les années 60 par Truman Capote ou Tom Wolfe, mais il suivait aussi les traces récentes du fameux journaliste Hunter S. Thompson qui venait de publier un livre sur les Hells Angels, autre fameux club de bikers à la réputation pourrie. Lyon avait d'ailleurs écrit une lettre à Thompson espérant recevoir les encouragement éclairé d'un confrère, entre guillemets. Mais ce dernier conseillera surtout à Lyon de, je cite, « foutre le camp de ce club, j'ai vu les Angels travailler, ils me fichent une trouille d'enfer », répondra Thompson. Irrité par cette réaction, Lyon précisera plus tard « Thompson m'a conseillé de ne pas rejoindre les Outlaws et au pire de toujours porter un casque, j'ai rejoint le club et je n'ai quasiment jamais porté de casque ». Pour le photographe, le jeune photographe, tout a réellement commencé 10 ans plus tôt, en 1957, quand Jack Kerouac a publié « On the Road », sur la route, célèbre chronique de deux jeunes voyageurs désillusionnés parcourant l'Amérique à la recherche de réponses. Comme nombre d'ados, Lyon, qui a 15 ans à la sortie du livre, est profondément fasciné par ce récit. Et à l'été 62, alors qu'il a 20 ans et vient de terminer un semestre à l'université de Chicago, demande à des amis de le déposer sur la route 66, l'une de celles qu'a empruntée Jack Kerouac. Il y fera de l'autostop jusqu'à Cairo, dans l'Illinois, où il assistera à un discours de John Lewis, président du Student Nonviolent Coordinating Committee, qui lutte pour les droits civiques. Danny Lyon commençant dès lors à photographier de nombreux événements liés à ce mouvement. En 1964, de retour à Chicago, il commence à planifier sa propre route, puis écrit à un éditeur pour évoquer son projet, celui de suivre les motards du Chicago Outlaw Motorcycle Club. Écoutons Danny Lyon expliquer combien ces motards avaient un visuel fort, combien ils étaient rebelles et libres, et comment lui aussi, au final, se considérera comme un biker.
The bike riders were a super visual group. And I liked that because I was a visual artist. And they did leave. They were a little nuts, you know, and I liked that. And yeah, I saw these guys as having, first of all, they were rebels. They were rejects. They were free in a way. So I was a biker, man. I, you know, it's about freedom, like a sailboat or flying. You're going anywhere, which way you want, on the sidewalk, in between cars, fast. You feel the wind. It's incredible. These guys are going slow. They don't want to go speed because they got the patch and the cops and all this insanity.
Voilà, c'était donc la voix de Danny Lyon.
Radio Caroline.
D'autres films ont dans l'histoire du cinéma collé à la roue des bikers, qu'ils soient Outlaws ou Hell's Angels. Parmi ces œuvres, il y eut, dès 1953, The Wild One, l'équipé sauvage de Laszlo Benedek avec Marlon Brando, dans lequel une quarantaine de jeunes vêtus de blousons de cuir noir, marqués d'une tête de mort, menés par un leader charismatique, Brando, déboulent dans une course de moto et envahissent la piste pour y semer la pagaille.
Mud makes everything slippery.
What's the matter with you, Chowderheads? You in such a big hurry to die?
Hey, look, this man's all
right. Hey, who are you? What are you doing here? You a cop or something? Huh? Don't push anybody.
Okay, break it up. We got enough entertainment around here. I've seen enough of you guys to last me forever. Now hit the road. I mean right now, get going.
En 1969, Jack Starrett réalise quant à lui Run Angel Run, la cavale infernale. Le pitch, en échange de $10,000, Angel dévoile à un journal des informations secrètes sur les Hells Angels. Fuyant à moto avec sa petite amie, il se retrouve pourchassé sur les routes par les membres de son ancien gang décidés à se venger et qui veulent sa peau, mort ou vif.
Giving the cops in L.A. a tough time, man.
$10,000.
Tell them to hold on to him. I want him.
Four motorcycle riders assigned to kill. Run, Angel, run.
Waste him.
He squealed on his gang, and the word was out. Waste him. Run, Angel, run.
Et en 1966, autre film de la Bikesploitation, Les Anges Sauvages, The Wild Angels de Roger Corman avec Nancy Sinatra et Peter Fonda. Peter Fonda, 3 ans donc avant qu'il ne tourne Easy Rider. Reconnaissables à leurs blousons noirs, leurs bottes, leurs cheveux longs, les Anges Sauvages, c'est le nom de la bande, ne se déplacent qu'à motocyclette, écrit à l'époque un critique cinéma. Ils se veulent libres, se droguent, refusent Dieu, nous sommes des anges de l'enfer, et se rebellent avec incohérence contre l'hypocrisie des hommes. Ils ne sont ni des beatniks, ni des vietniks. Par bravade, ils font d'une croix de fer leur insigne ou leur médaille, et ils ont dessiné ou gravé une croix gammée sur leurs vêtements, leurs gants, leurs casques. C'est avec anxiété que devant des pavillons bien propres où jouent des enfants gays, où se promènent des couples paisibles, nous voyons passer le cortège de ces jeunes gens, symboles lugubres et agressifs d'une autre Amérique, signé donc par un critique dans le journal Le Monde en 1966.
Getting their kicks from violence and torture. The Wild Angels, starring Peter Fonda and Nancy Sinatra. In the Angel Gang, if you're one man's woman, you're his old lady.
Well, because the way I used to be and all, you know, I just figured that you thought I...
You talk too much.
If you're a mama, you're every man's woman.
All right, everybody! We race up to that end of the canyon! The first one gets Mama Monahan!
I'm ready!
Yeah, we don't want nobody telling us what to do. We don't want nobody pushing us around.
Just what is it that you want to do?
We want to be free to ride our machines without being hassled by the man. And we want to get loaded. Oh, no, Preach. Not children of God, but Hell's Angels.
Yeah! Alpha, it's party time!
Radio Caroline.
Pour en revenir à l'Outlaws Motorcycle Club, le vrai, il faut savoir qu'il fut fondé en 1935 sous le nom de McCook Outlaws MC dans un bar de la Route 66, le Matilda's, situé dans la banlieue sud-est de Chicago par les ouvriers d'une entreprise de locomotives. Inactifs durant la Seconde Guerre mondiale, les Outlaws se reformeront en 1946 pour participer au premier grand rassemblement de motos d'après-guerre qui se tiendra dans le stade Soldier Field au bord du lac Michigan. En 1950, le club se rebaptisera Chicago Outlaws Motorcycle Club et une quinzaine d'années plus tard, au milieu des 60s, ces troupes enfleuront grâce à leur fusion avec le club de motards Cult de Voorheesville dans l'état de New York, les Gypsy Outlaws de Milwaukee et les Gypsy Raiders de Louisville dans le Kentucky, devenant ainsi le deuxième plus grand club de bikers des États-Unis après les Hells Angels californiens, mais plus ancien donc que ces derniers. Ces Outlaws adopteront comme emblème une tête de mort aux yeux rouges, surnommée Charlie, surmontant, plutôt que deux tibias, deux pistons entrecroisés. Un insigne inspiré de celui aperçu sur le dos du blouson de Marlon Brando dans le film The Wild One évoqué tout à l'heure. Pour être admis comme Outlaw en Amérique du Nord, il fallait, et faut toujours, être majeur, compétent en mécanique, adopter un style de vie en harmonie avec cette sous-culture des motards, traiter ceux-ci comme des frères, mais avant cela, passer par un vote des membres et prêter serment d'allégeance au club. Après un an d'adhésion, les Outlaws sont autorisés à arborer un tatouage représentant l'emblème du club, ainsi que des slogans tels que « Dieu pardonne, les Outlaws, non ». Et ce n'est qu'après 5 années que les membres peuvent avoir leur couleur tatouée sur le dos. J'oubliais, à l'origine, un membre qui avait tué ou tenté de tuer pour la cause des Outlaws était autorisé à porter des éclairs, tatouages représentant un symbole de style SS. Au début des années 1970, une lutte de pouvoir pour le contrôle des Outlaws fera rage entre une faction de membres buveurs de bière et un groupe rival au sein du club qui, lui, est porté sur la marijuana. Il fallait choisir son addiction. Des conflits au cours desquels, lors d'une fusillade, John Davis, patron des Outlaws, sera tué par des fumeurs vétérans du Vietnam. En ce qui concerne la rivalité de longue date entre les Outlaws et les Hells Angels, celle-ci va tourner au conflit armé au cours de ces mêmes 70s. Tout commence par le passage à tabac d'un Outlaw par un Hells Angel à New York le 31 décembre 1973. En représailles, 3 Hells Angels seront tués par des membres des Outlaws en Floride le 27 avril 1974. Un triple assassinat à la suite duquel, lors d'un sommet qui se tiendra à Cleveland, les Hells Angels déclareront officiellement la guerre aux Outlaws. Un conflit qui entraînera des centaines de morts dans chaque camp, dans chaque club, au cours des décennies suivantes. Pendant ce temps, l'Outlaws Motorcycle Club deviendra lui aussi international en accréditant en 1977 une antenne au Canada, puis d'autres en France en 1993, en Australie en 1994, en Norvège en 1995. En 2006, les Outlaws deviendront même le premier grand club de motards hors la loi à faire chauffer le macadam de l'Extrême-Orient après l'adoption de leur charte par le club de la ville d'Okinawa au Japon. Et en Belgique, un club de motards sera créé sous la bannière Outlaws en 1999 à Malines, parmi bien d'autres clubs de motards, bien sûr.
Radio Caroline.
Radio Caroline avec Olivier Monsens.
Au sujet des dérives criminelles auxquelles ont été associés les clubs de motards, et notamment, outre les Hells Angels, les Outlaws, l'ex-chef des Chicago Outlaws, Peter James, alias Big Pete, précise « Tous ceux qui rejoignent un club de motards ne sont pas des criminels, ils ont juste une certaine philosophie de la vie, une vision hors la loi. Moi, je considère les règles comme des suggestions. La plupart d'entre elles sont plutôt bonnes, mais s'il y en a une qui ne vous convient pas, il ne faut pas se sentir obligé de la suivre. Maintenant, oui, c'est vrai, il y a eu des criminels dans ces clubs. » Je ne peux pas le nier, mais les temps ont changé. En 2017, ce même Peter James, Big Pete, légende de la communauté internationale des motards, a publié The Last Chicago Boss, livre dans lequel il revient sur son passage à la tête des Outlaws et la façon dont, affirme-t-il, il a fait de ceux-ci le club de motards le plus cool et le plus élitiste. À l'opposé, en somme, de l'image qu'a donné de ces clubs en général une série de télé lancée en 2008, Son of Anarchy, qui retrace la vie d'un groupe de motards hors la loi opérant à Charming, ville fictive de Californie. Peter James lance « Cette série est la pire chose qui pouvait nous arriver. Elle a influencé pas mal de jeunes motards qui ont commencé à former leur propre petit club et à mettre des emblèmes ridicules sur leur veste. Des gars qui n'avaient aucune connaissance et compréhension de l'histoire ou du protocole des Outlaws. » Et c'est devenu n'importe quoi. Et puis, ajoute-t-il, dans la série, Jax, le personnage principal, c'est pas un motard, c'est un tueur en série.
We worked hard to create this business. We served time. We lost brothers. We spilled a lot of blood.
It ain't easy being king.
You remember that.
What this club needs is to settle a score.
What I do with my family is none of your business.
Do you have any idea who your husband is? What he's capable of?
You are dead! Dead!
You trying to scare me?
You gotta make the hard choice, son.
Betrayal is unforgivable.
I'm not gonna lose my club.
Eh bien voilà, notre voyage vrombissant se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous le faites savoir et puis vous l'étoilez. Si cela vous dit, belle journée ou bonne nuit.
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.